29 avril 1983. Poussette. Chapitre 1. Maman.
Mon mari va me tuer. Vous entendez ce que je vous dis, monsieur Vidame? Mon mari va me tuer.
Tu l'as répété au moins 3 fois, maman.
Mon mari va me tuer. Mon mari va me tuer. Mon mari va me tuer.
Vidame ne t'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder sa montre, une grosse montre dorée, pour bien faire comprendre qu'il était pressé. Il a soupiré aussi. Il a levé les yeux au ciel, enfin, au plafond de notre appartement, aux toiles d'araignée et aux morceaux de peinture qui se détachaient en flocons, comme un sachet de chips crevés. C'était il y a plus de 10 ans. Je n'aimais pas Vidame. Toi non plus, maman, je le sais, tu ne l'aimais pas. Mais t'étais bien obligée de faire semblant. Ce soir-là, Vidame a encore regardé sa montre. Est-ce qu'il vérifiait si elle était toujours accrochée à son poignet? Si l'homme invisible ne s'était pas introduit dans notre salon pour lui voler? Il a mis 10 secondes pour répondre.
Je suis désolée, Maya. Je suis travailleur social, pas policier. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'aller porter plainte. C'est l'unique façon de vous protéger.
Maya. Ça me faisait toujours drôle, maman, quand Vidame t'appelait par ton prénom. Maya. Comme s'il était un ami ou qu'il appartenait à notre famille. Toi, tu l'appelais toujours Monsieur Vidame. Je ne savais même pas à ce moment-là quel était son prénom. Tu tremblais, maman. Tu éparpillais des feuilles devant toi. Je les reconnaissais, c'était celles qui te faisaient pleurer chaque fois que tu les trouvais dans la boîte aux lettres. Et chaque fois que tu déchirais une nouvelle enveloppe, tu murmurais « Je m'en sors pas. Mon Dieu, je ne m'en sors pas. » J'ai vu tes mains s'approcher de celles de Vidame. J'ai deviné ce que tu avais envie de faire. L'attraper par les poignets, comme quand tu étais énervé contre moi. Le forcer à te regarder dans les yeux. Mais tu t'es contenté de les poser sur la table et de le supplier.
Je veux seulement de l'argent, monsieur Vidame. Juste un peu d'argent. Mon mari va rentrer, il va m'en réclamer. S'il trouve rien pour s'acheter à boire, il va me tuer.
Tes mains tremblaient toujours, maman, mais tu parvenais à les dompter, à les laisser coller bien à plat, doigts écartés. Vidame a regardé une dernière fois sa montre. J'ai détesté la façon dont il t'a parlé quand il s'est levé.
On en a déjà discuté 100 fois, Maya. Vous êtes sous tutelle. Je suis là pour vous aider à gérer votre budget, pour que votre mari ne dépense pas tout votre argent dans l'alcool, pour que vous puissiez subvenir aux besoins de...
J'ai détesté la façon dont Vidame a posé ses yeux sur le papier peint qui se décolle, sur le carrelage fêlé de l'entrée, sur chaque tache noire de moisissure, sur le reste de pâte collée au fond de la casserole, sur moi.
Aux besoins de votre fille.
Je terminais mon assiette. Je n'avais qu'une envie, je te le jure, maman. Je n'avais qu'une envie du haut de mes 7 ans. Planter ma fourchette dans sa main. Tu as remarqué ma colère. Tu devinais toujours tout, maman. Tu t'es levée et tu t'es approchée de moi. Tu as pris mes poignets, tu les as serrés fort jusqu'à me faire mal et tu m'as demandé d'aller me coucher. J'y suis allée sans discuter. Tu me l'avais dit tant de fois quand Monsieur Vidame ou Madame Goubert étaient là.
J'ai déjà assez d'ennuis comme ça, Follette. Je t'en supplie, n'en rajoute pas.
Quand j'ai poussé la porte de ma chambre, je t'ai entendu répéter.
Mais vous ne comprenez pas. Si mon mari n'a rien à boire, il va devenir fou.
Cette fois, je n'ai pas vu Vidame soupirer, ni lever les yeux au plafond, ni regarder sa montre. De ma chambre, j'apercevais juste son dos et son long manteau qu'il n'avait même pas pris le temps de retirer.
Je vais être claire, Maya. Je ne vous donnerai pas d'argent. Je le fais pour votre bien et pour le sien. C'est mon travail, vous protéger.
Restez alors, il va bientôt rentrer.
Je ne peux pas.
Je haïssais déjà Vidame à ce moment-là. Tu continuais de le supplier et il restait là, sans bouger, comme s'il avait des remords, comme s'il savait ce qui allait se passer cette nuit-là, qu'il avait tout deviné et qu'il hésitait. Pas longtemps, juste un instant. Juste le temps que tu lui proposes un café. Il savait. Et pourtant, il n'a rien fait. Je suis montée par la petite échelle de bois dans mon lit en hauteur et je me suis allongée juste au-dessous du plafond. Bolduc s'est réveillé. Il s'est à peine poussé, comme si c'était sa place, pas la mienne. Puis quand il a vu que je me glissais sous mes draps, il a grimpé sur moi en ronronnant plus fort encore que le chauffe-eau. De mon lit, aussi haut perché qu'une ampoule accrochée au plafond, je voyais tout. Par la porte entrouverte, je t'ai vu servir une tasse de café à Vidame. Il n'a pas osé refuser, il n'a pas osé traîner non plus, alors il l'a bu debout. Il devait se brûler les mains, vu que toutes les anses des tasses que mamie Mette nous avait offertes à Noël étaient déjà cassées. Vidame a trempé ses lèvres et a grimacé. Bien fait. Il avait dû se brûler tout le reste aussi. Tu faisais toujours trop bouillir le café. Du moins, c'est ce que papa disait à chaque fois. Je me suis tortillée dans mon lit. Pousse-toi, Bolduc, pousse-toi. De mon observatoire, je dominais aussi tout le quartier. Notre appartement se trouvait au 10e étage de l'immeuble Sorano, le plus haut. Par la fenêtre, je pouvais espionner jusqu'à la rue Rému, l'allée Jouvet et la passerelle au-dessus de la voie rapide. Ce soir-là, j'ai aperçu un homme qui promenait son chien, peut-être Monsieur Lazare. J'ai vu aussi une dame qui rentrait dans l'une des cages d'escalier, un couple d'amoureux qui s'embrassaient, des dizaines de voitures qui roulaient sous la passerelle et des gars au-dessus qui n'avaient rien d'autre à faire que de les regarder. J'ai vu une mobilette s'arrêter devant l'épicerie de Monsieur Femme alors qu'il commençait à ranger ses fruits. Je note ces détails pour m'en souvenir, maman, des années après. Je me rends compte que mon cerveau a tout enregistré ce soir-là. Peut-être que moi aussi j'avais deviné ce qui allait se passer. Ou peut-être que c'est l'inverse. Si je me souviens de tous les détails, si tout s'est gravé dans ma mémoire, c'est à cause de tout ce qui est arrivé ensuite. Pour ne jamais oublier, pour chercher une explication, un indice, un témoin, comme ce type qui fume sa cigarette devant le terrain de basket ou cet autre qui reste dans sa voiture sous un réverbère. Me souvenir de tout, maman. Chaque silhouette, chaque ombre, chaque feuille d'arbre, chaque feuille posée sur la table devant toi. Cette fois, Vidame a vidé sa tasse. Tu l'as supplié une dernière fois.
Restez pour lui parler, s'il vous plaît. Restez pour lui expliquer. Moi, il ne me croit pas.
Vidame a posé sa tasse sur la table. Bolduc s'est glissé sous les draps pour me lécher les doigts. Je l'ai laissé faire, même si je n'aimais pas ça.
Je ne peux pas, Maya. Il est tard, je vous l'ai dit. Je ne suis pas médiateur, je suis simplement mandatée pour gérer votre budget.
Je le détestais, plus que jamais. Qu'est-ce qu'il avait de si important à faire? Aller chercher le pain avant que la boulangerie ferme? Rapporter des fleurs à sa femme? Ou il avait tout simplement peur de croiser papa? Il préférait te faire la morale et te laisser te débrouiller seul avec lui. C'était ça son métier? T'attacher à un poteau et se tirer?
Richard, il va me tuer!
Vidame s'appelait donc Richard. C'était la première fois que j'entendais son prénom, la première fois que tu l'appelais ainsi. Du moins, je crois. Ça n'a provoqué chez lui aucune réaction. Il a fait comme s'il n'avait pas entendu et a reculé de 3 pas pour sortir. 3 pas, ça suffisait presque pour passer du canapé à la porte d'entrée. Il a posé sa main sur la poignée.
« S'il vous plaît, Richard, aidez-moi !»«
C'est ce que je fais, Maya. Je vous jure que c'est ce que je fais. Je vous aide, vous et beaucoup d'autres, à longueur de journée. Mais je ne peux pas vous sauver, ni votre fille. Vous seul le pouvez. »
« Il va me tuer !»
Richard Vidame était déjà sorti. La porte s'était refermée.